Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h42, merci d'être avec nous. Dans un petit instant, Philippe Bilger et Éric Revel seront là pour débattre avec vous. Vous voulez nous appeler 0826-300-300 pour parler de votre actualité. Tout de suite, c'est Benjamin Glaise et c'est la revue de presse.
Oui, et une fois n'est pas coutume, on commence par la une des Échos qui fait le point sur le calendrier des réouvertures.
Ah oui, ça, parce qu'on est un peu perdu. Ça se précise en tout cas avec le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui confirme ce calendrier de déconfinement progressif dans le quotidien économique. Dès la mi-mai, donc dans un mois, certains lieux culturels mais aussi les terrasses devraient rouvrir. Pour les commerces, ce sera le même agenda. La question d'une réouverture plus tôt que prévu, dès le 3 mai, bien Gabriel Attal laisse peu d'espoir là-dessus. Là encore, il redonne cette date de la mi-mai comme perspective tout en affirmant, mais sans conviction, que si c'est possible plus tôt, évidemment, nous le ferons. C'est ce qu'il affirme en tout cas. Ce qui nous mène à cette question à la une de la Dépêche du Midi. Covid-19, comment préparer la suite? Certes, la troisième vague est encore là, mais Emmanuel Macron esquisse donc la réouverture pour progressive des lieux fermés, même si la Dépêche préfère prendre des pincettes. Attention, cette date du 15 mai reste soumise, bien évidemment, à l'évolution de l'épidémie. En tout cas, dans ce contexte, Nice montre la voie. C'est la une de Nice Matin. Le Premier ministre a reçu effectivement Christian Estrosi hier à Matignon pour signer le contrat de relance et de transition écologique. Jean Castex qui en a profité pour saluer l'action du maire de Nice dans cette crise sanitaire.
Oui, et du côté du Figaro et de Libération, alors on s'intéresse aux prochaines élections.
Oui, elles sont nombreuses. On commence par les régionales. À la une du Figaro régional, le grand test de la présidentielle. Les Républicains veulent y voir le début de la reconquête, tandis que pour la gauche, c'est un test d'union. Dans le même temps, eh bien, le Rassemblement National et La République En Marche espèrent limiter la casse, en tout cas dans un contexte chamboulé par la crise sanitaire. Les partis s'organisent comme ils peuvent à la veille de ce scrutin des 20 et 27 juin prochains. Les régionales donc pour le Figaro et les présidentielles pour Libération qui se penchent sur le cas de la gauche, ou plutôt des gauches au pluriel. Les galériens de l'Union, ça c'est le titre retenu par Libé. Du PS à la France Insoumise, en passant par les Verts et le Parti Communiste, les leaders se retrouvent demain à l'invitation de Yannick Jadot pour jeter les bases d'un rassemblement présidentiel, même si les arrière-pensées de chacun rendent ce projet encore très incertain.
Oui, et on termine par un coup de colère, c'est à la une de l'Équipe.
Hein. Bah oui, effectivement, c'est quelqu'un qui sort de son silence. Oui. Patrick Vieira, en l'occurrence, l'ancien entraîneur du club de l'OGC Nice, qui dit ses quatre vérités, quatre mois après avoir été démis de ses fonctions. Selon lui, les ambitions étaient trop élevées sur son licenciement. Lui, il raconte: je ne m'y attendais pas. Sur le coup, il y avait de la colère. C'est ce qu'il dit, hein, l'ancien champion du monde, qui dit être passé à autre chose maintenant. D'ailleurs, cette interview lui permet surtout de faire passer le message de son envie de retrouver un nouveau club et au plus vite.
Oui, c'est vrai. Merci. On poursuit notre revue de presse avec Frédéric Chetin, chef des informations générales à La Provence, qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous.
Bon, plusieurs choses en une de La Provence. Bon, il y a déjà la barre des 100 000 morts en France, et c'est aussi votre une, hein.
Ah bah tout à fait, 100 000 morts, c'est pas rien. Ce chiffre, il veut tout dire et il veut rien dire, parce que on ne sait pas trop comment les 100 000 morts ont été comptabilisés, mais ce qui est certain, vu les tendances qu'il y a partout, c'est qu'il faut s'attendre à voir ce chiffre grimper rapidement, d'autant plus si ce fameux variant brésilien qui nous menace donne toute sa puissance, comme on peut le voir au Brésil, où on est à 4000 morts par jour.
Ouais. Et à Marseille, quelle est la situation? Est-ce que ça s'est amélioré, dégradé?
Alors à Marseille, c'est très tendu, on est à 485 incidences par jour, ce qui est sur 100 000, c'est pas mal. La situation est tendue, mais les dernières nouvelles qu'on a, c'est que ce serait pour l'instant stable, mais on n'est pas sorti de l'affaire, et il convient de rester extrêmement prudent. On recevait hier dans nos locaux le préfet, qui félicite pour ça, ça va vous surprendre, mais la discipline des Marseillais et des Provençaux.
Ah bah ouais, alors, attendez, quand même, il n'y a pas de raison non plus.
Bah, quand on a vu ce qu'on a vu avec le carnaval ici, on peut s'interroger,
c'est vrai.
Quand on voit ce qu'on voit le soir à droite, à gauche, on peut s'interroger aussi, mais c'est vrai que globalement les gens jouent le jeu, même si on n'a pas vraiment le sentiment non plus, faut pas se mentir, d'être confiné.
Oui, c'est vrai. Et du côté de la vaccination au Vélodrome, ça fonctionne, ça marche?
Ça fonctionne. Les gens y vont. On est plutôt sur la région mieux vaccinée qu'ailleurs. On est dans le peloton de tête des régions vaccinées. Donc on a un vaccinodrome, vous le disiez, au Vélodrome. On en a un autre juste à côté, au parc Chano.
Ouais.
On en a un troisième à l'hôpital La Vera, qui est un hôpital militaire. Donc ça fonctionne. Mais comme partout, il y a des réticences. Quand on parle avec les gens, ils disent: moi je veux Pfizer, je veux éventuellement Moderna, mais je veux absolument pas AstraZeneca. Et ça pose un vrai problème.
Et puis événement également, hein. Bah oui, les Rolling Stones à Marseille, au Vélodrome, hein, Frédéric
et
Chetin.
Oui, et oui, et puis en plus, ils vont y être très longtemps, puisqu'ils vont quand même y rester tout l'été.
Ouais.
Et
ça, c'est une expo, c'est hein, on précise.
Eh oui, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Mais oui, c'est une expo. Ouais. C'est une expo événement aussi, puisqu'elle a eu lieu pour l'instant qu'à Groningen, aux Pays-Bas. Après Marseille, elle sera accueillie par la ville de Toronto au Canada. Ouais. Donc c'est une expo qui retrace la carrière des Rolling Stones. Ouais. C'est une expo dans laquelle on va pouvoir voir leur petit studio minable de Londres, leur petit appartement minable de Londres entièrement constitué, leur studio d'enregistrement entièrement constitué. Ouais. Et c'est une expo qui permet surtout de faire le bilan de presque de 60 ans de carrière.
C'est bah génial, ouais, ouais, génial. Ouais. Et est-ce qu'ils vont pas, ils viendront ou pas
Non.
Bah si, mais si.
Ils viendront.
Mais oui.
Nous disons qu'ils viendraient habiter chez vous.
Non, attendez, vous l'invitez à la Provence et il viendra parmi Jacques. Ah non, mais il faut lancer.
Bah oui,
on viendra aussi. Non, mais ce qui est assez fabuleux dans cette histoire de l'expo, c'est la reconstitution de cet appart, donc où ils ont commencé ensemble, hein, l'appart du côté de Chelsea à Londres.
C'est ça. Ouais. C'est ça. On publie en dernière page une photo de l'appartement.
Ouais.
Et je peux vous jurer que franchement, ça fait pas envie d'y aller. Quoi.
Ah, non. Et pourtant. Ouais. Et ça, c'était, je crois, en 60-62. Dans ces années-là, et évidemment, il y avait du monde. Ça circulait. Hein. Ils étaient ensemble. C'est là qu'ils ont commencé leurs premiers accords. Et ils ont commencé aussi beaucoup d'autres choses. Hein, je
D'ailleurs,
crois avec les filles, avec vous voyez.
On a le dernier titre là de Mick Jagger. Si vous voulez écouter un petit morceau là.
Ouais, ouais.
C'est sur le Covid.
Qu'est-ce qu'il dit alors dans ce dernier titre, ma chère Cécile ?
Il dit qu'il serait très heureux de vous rencontrer et d'aller
Frédéric
déjeuner
Chetin.
Chez Frédéric Chetin.
Voilà
ce qu'il
ça.
Dit dans cette chanson.
Bon, merci.
Ce serait avec plaisir, je rencontrerai personnellement.
Bon, merci mon cher Frédéric et je compte sur vous
merci
donc pour ce matin en conférence de rédaction à La Provence. Donc, parler de Mick Jagger qui va venir à Marseille dans les locaux de La Provence et ensuite au Vélodrome. Hein.
Alors, je vous promets une chose, je vais tenter le coup. Je ne suis pas sûr d'y arriver, non, mais si jamais ça marche, je vous appelle.
Ah, bah oui, on le fait avec Sud Radio.
Vous,
ah, bah non, bah, évidemment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Et très bonne journée à vous.
Merci. Et tout de suite, le petit déjeuner de l'Axu. Philippe Bilger, Éric Revel, ils font des bons guitaristes ou des bons chanteurs.
Oh, tiens, hein. Bah, évidemment.
Je sais pas, hein.
Ouais. Éric Revel, par exemple, qui serait heureux de rencontrer Mick Jagger, j'imagine.
Absolument.
Quoi. Non ?
Oui. Alors, vous savez que c'est un énorme événement dans le sud.
Bien sûr,
cette expo dont vous venez de parler. Avec
bah, évidemment.
C'est un énorme événement. Il y aura 400 objets qui appartiennent aux Stones qui feront cette expo sur 2500 mètres carrés. C'est une expo qui tourne hein, depuis quelques années. Je vous signale quand même que quand elle s'est arrêtée à Londres, Mick Jagger, qui devait pas venir, est venu. C'est pour ça que on espère qu'à Marseille, entre le mois de juin et le mois de septembre, il y en a un des deux qui, enfin,
bah, oui.
un des chanteurs ou des musiciens qui passera une tête. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une superbe histoire d'amour entre les Rolling Stones et le sud de la France.
Oui.
Hier, Philippe Manœuvre, qui est le parrain de cette exposition, le journaliste rock'n'roll bien connu, nous expliquait sur Azure TV qu'ils avaient habité à Villefranche, juste à côté de Nice, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pour concocter le fameux double album. Mmh. Donc les Rolling Stones et le sud de la France, c'est une vieille histoire. Et si vous regardez bien sur Twitter, mon cher Patrick et ma chère Cécile, vous verrez qu'il y a un petit message en français de Mick Jagger qui parle de cette expo à Marseille et qui donne rendez-vous, donc on espère qu'il y sera.
Non, mais moi je suis sûr.
À tous ses fans.
Ouais, moi je suis sûr qu'il y passera. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il passe quand même. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il passait quand même une grande partie de son temps en France. Il a sa maison, son petit château, la manoir, du côté de Tours, bien sûr, à côté de Tours, hein, où il y est très souvent. D'ailleurs, souvent, il organise des déjeuners clandestins avec Philippe Bilger. Hein, Philippe
Ah, mais moi, j'adorerais rencontrer Mick Jagger. Hein, ça fait partie de ma jeunesse et je n'ai jamais tranché entre les Beatles et les Rolling Stones, jamais les deux.
Alors, bon,
c'est ce qu'il dit.
Voilà.
Il dit qu'il adorait rencontrer Philippe Bilger.
Est-ce que vous pensez qu'avant ça, on pourra justement prendre peut-être un petit café avec Mick Jagger ou avec quelqu'un d'autre en terrasse dans les cafés. Vous y croyez à cette réouverture progressive là, qui a été évoquée hier soir chez Emmanuel Macron parce qu'on avait des restaurateurs ce matin qui disaient bon, bah, nous on n'a pas été invités et on se demande comment tout ça va fonctionner. Mais il faut, bien sûr, il faut un calendrier, quoi. Mais si c'est pour ouvrir qu'une partie sur la terrasse, comment on fait pour s'organiser ? C'est compliqué. Hein. Philippe Bilger.
Oui, Patrick, c'est compliqué, mais au risque à nouveau d'apparaître un peu naïf dans mon optimisme, oui. Et j'ai constaté hier soir au Vrai Voix que les auditeurs, en tout cas dans l'émission, étaient relativement peu confiants dans cette promesse du président. Moi, je crois tout de même que dans la mesure où on se rapproche de l'échéance présidentielle et qu'il y a eu une multitude d'engagements, sinon violents, du moins en permanence ajusté par rapport au réel, là j'ai bon espoir tout de même qu'à partir du 15 mai quelque chose se déroulera et qui sera positif. Le président ne peut pas se permettre en permanence de faire des promesses dont qui ne tiendra pas, d'autant plus que cette promesse-là, on lui entraînerait terriblement rigueur s'il ne la respectait pas. Ouais. Donc j'ai bon espoir sur une ouverture. Est-ce qu'elle sera suffisante? Elle sera complète? Je n'en sais rien, mais il y aura quelque chose de positif qui se produira.
Ah ben, Philippe, Éric Revel?
Bah écoutez, oui, moi j'aimerais évidemment partager l'optimisme prudent de Philippe, mais regardez l'interview de ce matin de Gabriel Attal, ce qui n'est pas courant dans le journal économique Les Échos, pour un porte-parole, vous verrez qu'il me semble qu'il est un petit peu plus en retrait, en réalité, que ce dont à quoi on pouvait s'attendre. Alors c'est vrai que le gouvernement, les ministres jouent entre ce qui va se passer et la prise de position du président de la République sur l'ouverture partielle à la mi-mai. Mais regardez bien les dernières déclarations de Bruno Le Maire. Regardez cette interview de Gabriel Attal. Il me semble que, voilà, on marche sur des œufs, on est de plus en plus prudent sur la réouverture partielle, mais de certaines terrasses, mais de certains commerces, mais de certains lieux culturels. Alors, je ne vais pas, évidemment, refroidir l'espoir et les ardeurs de ceux comme moi qui souhaitent que tout cela rouvre le plus rapidement possible, mais il me semble qu'on a un message de plus en plus prudent. Tout ça est dans 4 semaines, hein, la mi-mai, sans date vraiment précise. Pourquoi? Parce qu'on a cette crainte maintenant, et oui, on a toujours des craintes du variant brésilien, et que personne ne sait si ça va occasionner une 4e vague. Donc il y a la volonté évidemment de tenir la parole présidentielle pour les membres du gouvernement. La réunion d'hier soir avec tous ces ministres autour du président de la République et l'Élysée le montre. Et en même temps, il y a la crainte de l'apparition d'un nouveau truc qu'on ne maîtriserait pas et qui obligerait peut-être à refermer en catastrophe tout ça. Donc c'est de la prudence et on peut comprendre. Hein.
Simone, au 0826 300, bonjour ma chère Simone.
Bonjour.
Alors je sais que vous vouliez aussi réagir sur Sarah Halimi, alors on l'a déjà beaucoup traité hier et avant-hier, c'est pour ça, hein, bien sûr, dans l'actualité, mais on y reviendra sans doute à un moment donné. Sur ce que disaient Philippe Bilger et Éric Revel, peut-être en un point.
Je veux être optimiste comme Philippe Bilger et un peu pessimiste contre le monsieur qui vient de parler là.
Éric Revel.
Je crains beaucoup, moi, le Brésilien. Vous voyez, s'il avait fermé les frontières tout de suite, il y a 2 mois, il faut fermer les frontières, mettre en quarantaine, etc. Vous voyez, on aurait moins de... Là, il va nous arriver. Au 15 mai, on va avoir le Brésilien. J'en fous ma main à couper. Et ça me rend très triste. D'autant plus que nous, je fais de la gymnastique. On a repris un petit peu, nous, depuis le 26 avril, à l'extérieur, pas nombreuses, avec les distances, mais on a repris. J'espérais pour la chorale aussi un chanteur dehors, mais je
voilà. Bah non, mais ça, c'est possible, Simone, de chanter dehors avec une chorale maintenant qu'on va vers les beaux jours, quand même, non?
Ben oui.
Mais franchement, avec la distance, quoi.
Mais je sais pas si on a le droit, si la police passe.
Ben oui.
On a un grand espace devant l'école de musique. On peut le faire, vraiment, hein, mais bon, voilà. Écoutez,
non, mais si
j'espère.
Non, mais vous avez raison, il faut garder le moral.
Alors, on garde le moral.
Bien sûr. Et avec nous, en écoutant en Sud Radio, hein, ça vous redonne du peps. Voilà.
Radio chérie, hein. Attends. Ça désire, hein. Je vous fais une pub d'enfer, ça je vous le dis.
Ah bon, bah c'est vrai. Où ça? Vous êtes où, Simone, dans quel coin?
Je suis à Castel-Sarrazin. Alors maintenant, vous avez d'ailleurs... Non, à ce soir-là, elle n'écoute pas ma copine, elle travaille. Mais à midi, elle y est, hein.
Ça c'est bien.
Qu'elle est là.
Bon, eh ben très bien. Allez, je vous embrasse parce qu'on peut de loin, c'est plus facile évidemment par téléphone. Et dans un instant, on va se poser cette question aussi. Est-ce qu'il faut étendre la vaccination à tous les volontaires? Question au professeur infectiologue Robert Sebag. Et puis restez bien avec nous parce que juste après, on aura le patron de Citroën qui sera dans ce studio. Je ne sais pas s'il est venu en Citroën, hein, mais oui, parce qu'il y a une nouvelle. Vous... Non, mais il y a une nouvelle stratégie. Il y a des nouvelles voitures chez Citroën depuis un petit bout de temps. Et puis il réagira à l'actualité du moment où il y a eu aussi de l'auto-bashing. Alors est-ce qu'il faut aller vers les voitures beaucoup plus propres et notamment l'électrique? Et puis il nous donnera des nouvelles de l'AMI. Vous savez, cette petite voiture qui n'est pas vraiment une voiture, mais qui est une voiture quand même, et qui se vend pas dans des concessions automobiles, mais qui se vend quasiment dans des supermarchés.
C'est très disruptif.
Bon, allez, on en parle dans un instant.
Restez avec nous, 8h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, merci d'être avec nous, la suite du petit déjeuner de l'actu. Avec cette question, faut-il étendre la vaccination à tous les volontaires, indépendamment de leur âge et de leur état de santé, bien entendu. Et nous sommes ce matin avec Robert Sebag, qui est infectiologue à l'hôpital de Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bon, est-ce que c'est une possibilité, une hypothèse sérieuse, ça, d'essayer d'étendre la vaccination à tous les volontaires qui ont envie, quoi, quel que soit leur âge et leur état de santé, Robert Sebag?
Écoutez, d'abord, il faut savoir qu'on est sur une course-poursuite, c'est-à-dire que plus le virus va circuler, plus vous avez le risque d'apparition de variants. Donc il faut aller très vite. Alors je sais qu'il y a un problème de dose, mais là il y a un deuxième problème qui se pose, c'est le problème des vaccins AstraZeneca, qu'on a réservé effectivement aux plus de 55 ans, mais on a créé un doute par une communication qui n'a pas toujours été bien menée, mais enfin c'est vrai que les cas sont extrêmement rares, si vous voulez, par rapport au risque, et la balance bénéfice-risque, elle est plutôt en faveur du vaccin. Et à partir du moment, si vous voulez, où il y a des gens qui ont des refus, on peut se poser la question de savoir d'abord que sur tous les plus de 55 ans, quel que soit leur problème de morbidité ou pas de morbidité, déjà tous les volontaires, tous ceux qui veulent se faire vacciner après 55 ans avec l'AstraZeneca, le fassent. Donc déjà, ça fera beaucoup, donc on va plus limiter, puisqu'avant c'était limité avec des comorbidités. Là, tout le monde, tous les volontaires, en leur expliquant bien sûr les risques, et puis ils ont le choix, mais enfin, le risque, il est extrêmement, extrêmement minime. Après, on peut se poser la question, puisque quand on voit le nombre de vaccinations faites en Angleterre avec ce vaccin, et même sur des sujets avant 55 ans, on peut complètement ouvrir, puisqu'on a ce type de vaccin, en quantité, et de dire, et en particulier peut-être ferrier un petit peu les choses en disant voilà, il y a les enseignants, il y a les VTC, les chauffeurs de taxi, ce qu'on avait appelé les premiers de cordée, c'est-à-dire les éboueurs, les policiers, enfin un certain nombre. On a ouvert un petit peu la porte hier, et de dire écoutez, même si vous n'avez pas 55 ans, vous êtes beaucoup plus jeune, voici les risques, puisqu'on en a vacciné beaucoup en Angleterre de moins de 55 ans. Est-ce que vous acceptez, et ouvrir cette vaccination? Il faut vacciner le maximum de personnes.
Non, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop, honnêtement, cette communication en fait d'hier, en disant, bon, allez, on va donner de la priorité aux enseignants et aux policiers, mais de plus de 55 ans. Bah, déjà, c'était possible, en fait, avec eux, mais alors, c'était pas prioritaire, sachant qu'il y avait des vaccins, en fait, un peu partout. Quand même, en tout cas, dans les centres de vaccination, ou chez les généralistes, sur l'AstraZeneca. Et on aurait pu
en plus,
peut-être...
les médecins généralistes, pardon de vous couper, c'est eux qui peuvent expliquer, ils connaissent leurs patients, ils ont le temps de leur expliquer.
Mais vous savez ce qu'ils disent, Robert Sebag? Vous savez ce qu'ils disent, les généralistes, c'est qu'ils en ont marre. Aujourd'hui. Ils en ont marre parce que...
On fréquente beaucoup.
Ils disent, on est obligé de courir après, avec cette communication qui a été complètement catastrophique, on est obligé de courir pour avoir les patients pour qu'ils viennent à l'AstraZeneca. Donc c'est
vrai,
le bazar.
C'est
et on appelle,
nous,
on passe 50 appels pour avoir 10 personnes.
Mais nous aussi à l'hôpital, vous savez, les gens arrivent.
Oui, mais vous êtes mieux organisé à l'hôpital.
Non, mais j'ai beau leur expliquer, quand on est vacciné à AstraZeneca, vous n'avez aucun risque, ne vous inquiétez pas, on peut vous surveiller, il y a des signes d'apparition, si la moindre chose arrive. On a des systèmes de pharmacovigilance. Et malgré ça, vous êtes en irrationnel. La peur du vaccin a remplacé la peur de la maladie. Et ben voilà, ils vous disent non, j'ai le choix, docteur, j'ai le choix. Eh ben j'attendrai. Accueillir du Pfizer. C'est terrible, c'est terrible.
Bon, en tout cas,
mais
vous,
c'est notre réalité aujourd'hui.
Et vous conseillez, d'étendre cette vaccination, si on peut, au moins jusqu'à 40, 45 ans.
Mais sur les gens qui sont volontaires, en leur expliquant bien sûr ce qui a été fait en Grande-Bretagne, que le risque il est minime, qu'on va les surveiller, que s'il y a l'apparition d'essoufflement, de petits problèmes, ils vont être pris en charge tout de suite. je pense qu'on peut se permettre ce genre de choses. Ouais. Que la balance bénéfice-risque, c'est beaucoup plus grave d'attraper la Covid. Hein.
Ouais. Merci beaucoup, hein, Robert Sebag, d'avoir été avec nous, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Allez, dans un instant, en voiture, Simone, si je puis dire. Quoi.
C'est hein ça. Avec une petite nouvelle sur le marché, hyper élégante et très techno, vous allez voir.
Une petite.
Ah ouais, petite nouvelle, parce donc, qu'elle arrive un petit peu, comme dirait Monsieur Tavares, elle marche avant de courir. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on dit chez PSA. Et dans un instant, Vincent Cobé,
vous y connaissez
nous.
En automobile, vous, non? Vous n'auriez pas piloté un jour
des Citroën?
Y compris des Citroën, entre c'est autres, ça ouais. Et donc, Vincent Cobé qui est là, vous attendez qu'il vous propose.
C'est un petit peu mon patron, Patrick, voilà, je suis désolé.
Vous attendez qu'il vous propose de reconduire de nouveau, c'est ça? Vous allez faire des courses automobiles.
D'avoir qui vous dit qu'il ne vous l'a pas proposé. Je suis peut-être en réflexion, voilà, c'est le temps de la pub et on vient dans un instant.
Restez effectivement avec nous, Vincent Cobé sera avec nous. Et puis tout à l'heure aussi à 9h30, si vous avez des questions sur la psy, est-ce qu'on peut être heureux à tout prix? Excellent livre de Minou Azoulay et Pascal Delannoy qui seront avec nous de 9h30
à 10h. Comment choisir son psy?
Jamais sans mon psy. Oui, mais on est devenu un petit peu fou quand même aussi.
Mais vous pouvez me parler, Patrick, si vous voulez.
C'est
vous
vrai.
Pouvez m'appeler le week-end.
Allez, restez dans un instant.
Nous. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h10, merci d'être avec nous. On va faire un point sur le secteur de l'automobile en cette période de crise, avec des nouveautés chez Citroën, et on va en parler ce matin avec Vincent Cobé, directeur général de Citroën. Merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir.
Ouais. Mais qu'est-ce qui vous prend chez Citroën là, en ce moment? Vous sortez deux voitures alors qu'on dit que ça ne va pas dans le secteur de la voiture. Vous avez la nouvelle C4 il y a quelques mois, là, hein, qui est sur le marché. Et donc là, vous avez présenté cette semaine, mais elle n'est pas encore en vente, hein, ça va venir, la nouvelle C5, alors, du troisième X. Nom, hein, c'est ça, C5X. Hein, voilà. C'est ça. Et alors, deux mots sur cette voiture. On parlera peut-être aussi du marché dans son ensemble tout à l'heure, mais quand même, qu'on essaie de comprendre d'ailleurs, parce que moi, j'ai vu les photos, je ne sais plus si c'est une berline, si c'est un SUV, si c'est un break, c'est... Elle est assez étonnante, cette voiture.
C'est au carrefour de tout.
Alors, voilà, c'est un peu fait exprès. Si je raconte l'histoire, depuis une dizaine d'années, on voit l'émergence très massive des SUV et on voit une perte d'engouement pour ce qu'on appellerait des silhouettes traditionnelles, la grande berline et des choses comme ça. En fait, on a regardé ça depuis pas mal d'années chez Citroën et on s'est dit, en fait, quel est la motivation réelle des clients. Quand vous allez dans un SUV, vous cherchez une position haute sur la route, vous cherchez une flexibilité d'usage. Vous savez, on a tous des vies qu'on appelle multiplexées entre le travail, la famille, le sport, et ainsi de suite. Mais on s'est dit, ça ne veut pas dire que tout le monde est à la recherche d'un véhicule plutôt carré, plutôt massif, pour conduire en ville ou même en campagne. Et donc on s'est dit, on va essayer de développer quelque chose qui correspond à cette notion de voyage. Donc qui apporte le plaisir du voyage, le confort, l'élégance, la fluidité, mais qui en même temps vous donne cette position haute sur la route et en même temps a la flexibilité, la fonctionnalité qu'on trouvait historiquement dans un break et qu'on trouve récemment dans un SUV. Donc c'est ça, c'est 5X. Ça a une ligne très fluide, mais en même temps vous vous rendez compte qu'il y a de la place à l'intérieur, que ce soit au premier ou au deuxième rang ou dans le coffre. C'est un peu haut sur la route, ça vous permet de rentrer et de sortir plus facilement, ça vous permet de voir autour de vous. Donc, c'est
mais ce n'est pas un SUV, c'est-à-dire que les écolos ne vont pas pouvoir vous dire stop, arrêtez les SUV. Ah bah,
je pense que j'ai une assez bonne réponse. Quand vous regardez ce qu'on appelle les coefficients d'aérodynamisme, on est mieux qu'une sedan basse traditionnelle, qu'une berline traditionnelle. Donc au niveau aérodynamisme, fluidité... Et donc, consommation d'essence, on est dans le territoire d'une grande berline.
Alors, c'est qui dit voiture haute dit batterie.
C'est une des évolutions que vous voyez dans l'industrie automobile aujourd'hui.
Elle est à la fois essence et électrique. Quoi. Il va y avoir plusieurs...
Celle-là, donc ces 5X, à son lancement, sera disponible avec deux motorisations essence et une motorisation hybride rechargeable. Donc qui sera, en Europe, la motorisation principale qui vous permet donc d'avoir un trajet sans émission au départ et à l'arrivée de votre trajet et au milieu, de ne pas avoir de préoccupations sur l'autonomie.
Donc exit le diesel.
Ça, c'est la première décision qui était en fait une décision à la fois lourde par rapport à l'histoire de ce segment et relativement logique. Parce que si vous regardez des données, il y a 5 ans, le segment de la grande berline en Europe, 80% de diesel. L'année dernière, 48%. Dans 3 ans, moins de 20%. C'est l'évolution de la réglementation, c'est les conséquences du Dieselgate, c'est l'attente d'Euro 7. et donc les valeurs résiduelles qui s'effondrent, et donc tous les véhicules de société qui vont progressivement quitter le diesel. C'est une réalité, on l'anticipe. On aime bien ça chez Citroën.
Vous visez donc évidemment bien sûr le marché français, mais pas seulement avec cette voiture. Est-ce que vous voulez concurrencer? Parce qu'elle elle est assez, je le dis sans vous faire de publicité plus que ça, mais elle est assez racée quand on voit en fait sa ligne. Donc ça veut dire que vous voulez aller titiller les Allemandes ou d'autres, des Alors, Italiennes
Je pense qu'on va essayer d'être très français.
Oui.
Déjà, en termes de marché, le plus gros marché pour ce genre de véhicules, c'est la Chine, aujourd'hui.
D'accord.
Les États-Unis, mais nous n'y sommes pas présents, mais principalement la Chine. Pour donner une idée, le segment qu'on appelle segment D, mais qu'on appellera la grande berline ici, c'est trois fois plus grand en Chine que dans toute l'Europe. D'accord. Donc on a un rapport de 1 à 3. Donc bien évidemment, nous commercialiserons ce véhicule C5X en Chine. Pour ce qui est de l'Europe, effectivement, moi je suis un fervent défenseur de la diversité d'offres. On a vendu énormément tous de SUV récemment et on a focalisé toute notre attention sur le SUV. C'est des produits qui ont une grande attractivité pour les clients, mais on a un peu oublié qu'il y a d'autres possibilités de faire des voitures. Et donc on a énormément investi non seulement dans la posture, la fonctionnalité, mais aussi dans l'élégance. C5X, vous la verrez sur la route, je vous le dis, mais ne me croyez pas sur parole, attendez de la voir.
On se retrouve en aura.
Voilà, c'est, ça. C'est beau à voir.
Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un produit de reconquête, finalement, pour la marque Citroën, ou de repositionnement?
Alors, ça fait 5 ans qu'on repositionne Citroën comme une marque moderne, attractive, au cœur des segments, apportant du bien-être, de l'innovation. On l'a fait de C3 à C4 à C5 Aircross. Et puis je pense que c'est aussi un véhicule de démonstration. Citroën, tous autant que nous sommes, nous savons depuis 50 ans, 60 ans, c'est une marque qui va vous surprendre, qui va vous attacher depuis l'entrée de gamme jusqu'au plus haut de gamme. On l'a fait avec 2 chevaux, on l'a fait avec XM ou CX. Et en fait, on veut redémontrer toute l'étendue du possible de la marque. C'est une marque qui est différente sur l'ensemble du marché.
Et ça reste des rêves accessibles financièrement?
J'adore ce terme. Parce que C5X, c'est ça. C5X, c'est beau. Ouais. C'est du rêve. C'est l'automobile dont on rêve. Et en même temps, on ne participe pas de cette envolée tarifaire que, par moments, je trouve un peu trop exclusive.
Chez les autres.
Chez les autres, et que nous ne souhaitons pas alimenter. Donc ça sera un rêve accessible.
Oui, qui sera donc commercialisé à l'automne, hein, c'est
Prise
ça, cette
de commande en octobre, livraison fin d'année.
Oui. Bon, un mot aussi sur l'actualité, justement. Est-ce que tout le secteur automobile aujourd'hui est un peu au ralenti, quand même? Est-ce que vous le sentez, vous, dans l'ensemble en fait, de vos concessions? Les ventes avaient continué, il y a eu du stop and go, quoi, aussi, dans les ventes, c'est le cas aujourd'hui ou pas?
Alors, premièrement, la première chose qui, moi, me paraît très intéressante à garder à l'esprit, c'est que l'industrie automobile est une industrie massive, extrêmement compétitive, et ça fait une dizaine d'années qu'on a été attaqué par tout un tas de crises, toutes plus imprévisibles les unes que les autres. Financières, catastrophes naturelles, législation.
La loi café, par exemple.
Plein de choses.
Responsable du dérèglement de la planète, quoi. Bien sûr, la voiture, quoi.
Vous savez, on aime dire qu'on est autant part de la solution que du problème, voire on pourrait être vraiment une bonne part de la solution. Mais je crois que ce qui est. Le vrai arrêt de l'industrie, c'est il y a un an. Il y a un an, on est pris par une tornade que personne n'a prévue ou ne sait mesurer. Et donc là, les concessions se ferment, les usines se ferment, les fournisseurs se ferment. Et on était vraiment à l'arrêt, pratiquement, en mars-avril de l'année dernière. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train de se diriger vers un nouveau normal. Et ce nouveau normal, il est chaotique. Un jour, un pays s'ouvre, le lendemain, un autre pays se ferme. Les frontières s'ouvrent, se ferment. Voilà, je ne vous parle même pas du canal de Suez, qui était juste la cerise sur le gâteau.
Ouais.
Mais ça, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Le marché en soi, la motivation, l'optimisme des clients, on le sent revenir. Ouais. Les prises de commandes sont plutôt bonnes en ce moment. Par contre, nos concessions sont ouvertes sur rendez-vous, nos usines sont sous une crise de composants électroniques. Enfin,
oui,
on est à la croisée de plein de tensions de la société.
Oui, parce que vous êtes en plein aussi dans la mondialisation sur la construction. Est-ce que cette voiture, où est-ce qu'elle va être construite?
Cette voiture C5X, elle va être assemblée dans une usine qui est à Chengdu, dans le Sichuan, en Chine.
Oui, pourquoi pas en Europe et en France?
Il y a plusieurs raisons à ça.
Parce que vous êtes une marque française, non?
Oui, on est une marque française, on fabrique des véhicules à Rennes, en vend en France. Il n'y a aucun état d'âme là-dessus. Je pense qu'on a, comme vous le savez, on est parti d'un groupe qui s'appelle Stellantis. On a une approche, j'allais dire, rationnel et équilibré sur les allocations industrielles. Comme je le disais, la Chine, c'est trois fois l'Europe dans ce segment. On a une usine qui est au meilleur niveau de qualité mondiale à Chengdu. On a une plateforme qui est industrialisée là-bas et ça fait complètement du sens d'un point de vue industriel.
Oui, mais est-ce que ça veut dire quand même aussi, Vincent Cobé, que on ne va plus fabriquer de voitures en France demain, à l'avenir? Ce qui est paradoxal, c'est que là, une entreprise française va fabriquer quand même à l'étranger, en Chine, alors qu'une coréenne vient par exemple fabriquer, je crois qu'elle est coréenne, c'est bien ça, vient fabriquer à Valenciennes, quoi, par exemple.
Oui, je connais une qui est japonaise, hein, je crois.
Oui, japonaise. Oui.
Ce que je tiens à dire, premièrement, moi, je m'attache pas trop aux effets d'annonce court terme. Ce qui est intéressant à regarder, le groupe Stellantis, et il y a eu des communications très fortes de notre président Carlos Tavares il y a quelques jours, est en train de prendre une décision majeure pour l'avenir industriel de la France et de l'Europe, qui est de relocaliser la chaîne de traction électrique en Europe, avec une usine de batterie, avec l'industrialisation des moteurs électriques et des convertisseurs-invertisseurs. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve le nerf de la guerre de l'automobile des 5 ou 10 prochaines années. Je pense que nous avons, vis-à-vis de notre stratégie industrielle et de notre stratégie de façon générale, une approche très responsable de où se trouve le nerf de la guerre, quelle est la meilleure façon de rester compétitif, profitable, face à une industrie en transition.
Oui, pour qu'elle existe, quoi. Toujours la marque, c'est ça. Parce que sinon, elle pouvait être en danger.
Si vous regardez ce qui est arrivé sous l'égide de Carlos Tavares au cours des 7 dernières années de PSA, maintenant Stellantis, on est passé d'une entreprise dont on pouvait légitimement se demander quel était son avenir financier, à une entreprise qui est parmi les plus profitables du monde. Et je pense que derrière ça, il y a des stratégies industrielles, économiques, réfléchies, posées, gagnantes. Et la localisation de la chaîne de traction électrique en Europe est une décision fondamentale, y compris pour l'emploi industriel en France.
Oui, l'avenir, c'est quoi? Alors, c'est vraiment la voiture électrique ou pas?
Je pense que ça, c'est une question où on sera tous dans 10 ans là pour dire si on a fait la bonne prévision ou pas. Il y a 2-3 choses qui sont évidentes. La réglementation européenne va forcer une électrification de la quasi-totalité des véhicules. Et je dis bien électrification. On parle d'hybridisation légère, hybridisation normale, hybridisation rechargeable ou 100% électrique. Ça, dans 5 ans, 100% des voitures. C'est aussi simple que ça.
100% des voitures.
Oui, la norme Euro 7 va de facto l'imposer. Je parle des voitures particulières. L'équilibre entre une hybridisation rechargeable et du 100% électrique, il y a énormément de facteurs à ça. Le coût des batteries, l'offre des constructeurs, le réseau de recharge, et puis aussi l'acclimatation de nos clients. Parce qu'en fait, si on regarde combien d'entre nous ont déjà conduit un véhicule 100% électrique plus que 5 km. C'est-à-dire la possession.
Et pourtant, les clients de Citroën sont responsables quand même.
Ça, c'est... J'ai bien préparé cette
discussion.
Ce qui est très intéressant, effectivement, on a regardé les clients de Citroën. Et les clients de Citroën, par rapport à la norme de l'industrie, sont beaucoup moins dans la performance dynamique, j'allais dire la course du week-end sur la départementale.
C'est vrai, ils veulent un peu de confort et puis une voiture
beaucoup plus dans
trop
la responsabilité familiale et dans la responsabilité sociétale et environnementale. Donc nous avons en face de nous, et c'est le résultat de centaines d'années de vente de, enfin, d'une centaine d'années de vente de voitures, une clientèle très responsable, très en attente. Et quand je vois le résultat de la C4 100% électrique, c'est vrai. Après, il y a toujours une différence, c'est la complexité de l'adoption d'une technologie. Les 5 premiers pourcents sont relativement faciles. Ce qui est dur, c'est de passer de 5-10% à 30-40%.
C'est aussi au pouvoir public de pouvoir assurer du déploiement avec des bornes un petit peu sur tout le territoire. Sinon, on n'avancera pas et on en restera. Parce que si vous avez une voiture et puis que vous engagez un voyage et vous restez au milieu du voyage parce que vous ne pouvez pas recharger, il y a déjà la queue en fait, sur les bornes, c'est quand même un gros problème.
Il y a ça,
Vincent Cobé. Mais c'est fondamental.
Nous avons un rôle à jouer. Nous devons aussi vous dire que là, les 20 jours où vous avez besoin d'une voiture pour faire une grande distance, on va vous fournir une solution.
Ah oui, alors ça c'est notre. Oui, parce que sinon vous avez une autre petite solution. Non, mais ce qui est une voiture sans être une voiture, ouais, c'est Cécile voulait avoir des nouvelles, justement.
Hein. Oui, parce que c'est quand même extrêmement disruptif. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chez Citroën, à chaque fois, on va chercher des choses nouvelles. Donc de vendre des voitures à la Fnac ou finalement chez Darty, c'est quand même extraordinaire.
C'est la fameuse Ami.
Ami, c'est une histoire fabuleuse. Ami, c'est Citroën. J'allais dire au mieux de son ADN.
2.0.
Ouais. C'est la 2 chevaux, la Mi-8.
Non, mais quel est le problème? Le problème, c'est dans les villes, on est à Paris, mais dans toutes les grandes villes, si vous regardez bien, de plus en plus, c'est transport public où vous marchez. Quoi. Donc, et on pense que la liberté du transport individuel, et je ne vais pas vous dire que dans les conditions sanitaires actuelles, ça a encore gagné de la valeur, mais c'est fondamental. Alors, nous disons, tout à fait, 100% électrique, absolument d'accord. Une empreinte au sol, une empreinte sur les ressources réduite très fortement, nous sommes 100% d'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être du transport individuel. Donc, Ami, c'est ça. Et après, vous rentrez dans un état d'esprit très Citroën qui est de dire, en fait, on n'est pas en train de construire une voiture. On est en train de construire un objet de mobilité, pratiquement du mobilier urbain.
Oui, c'est vrai.
Non, mais elle est assez étonnante.
Elle est une jeune génération petite. Aussi.
Elle est, exactement.
Alors, qui l'achète, oui? Alors ça, parce que Cécile ne l'a pas encore acheté pour l'instant.
Non, mais...
On va voir.
On va y arriver.
Alors c'est rigolo parce que j'ai regardé la fabrication et ça m'a fait assez rigoler. Enfin, je trouve ça génial.
La conception.
Oui, non, mais la fabrication d'avoir les deux mêmes portes, qu'il y en a une qui soit dans un centre et dans l'autre, c'est assez rigolo.
Et on l'a fait.
Mais allez la voir parce que c'est dingue.
Mais qui l'achète? Alors pour le moment, une fois de plus, on est dans des phases d'adoption. Pour le moment, plutôt des gens aisés, plutôt possesseurs de maisons, plutôt en première périphérie des grandes métropoles. Pourquoi? Parce que un besoin de transport qui n'est pas satisfait par le transport public, des moyens financiers qui permettent de faire cette décision relativement facilement, souvent un ado à la maison que
qui
papa ou maman
on
a un peu assez marre d'amener à la piscine ou à l'école.
Parce qu'il n'y a pas besoin du permis pour la.
Besoin d'un permis AM, donc un permis très léger, à partir de 14 ans.
À partir de 14 ans, voilà, c'est ça. Non, mais ce n'est pas le vrai permis de conduire. Quoi. C'est comme, un scooter. Quoi.
J'ai
comme
une ado de 13 ans et 10 mois à la maison qui a bien compris.
Ah, mais c'est peut-être un peu tôt pour la mettre quand même au volant sur les routes. Quoi.
Vous savez, aujourd'hui, un ado de 14 ans peut prendre un scooter, traverser la place de l'Étoile de nuit, enfin pas de nuit en ce moment, mais de nuit en temps normal. Sous la pluie, je pense que c'est mieux avec 4 roues et 2 portes qui ferment.
Ouais. Bon, d'un dernier mot aussi, parce qu'il y a de la nostalgie quand même parfois aussi chez Citroën, et donc vous allez organiser des événements autour des anciennes voitures en fait Citroën, là, non? C'est la Mi-8, non? C'est pas ça, non?
La Mi-8.
Non, mais attendez.
On doit fêter les 60 ans de la Mi-6, je crois.
La Mi-6, oui. Je sais pas pourquoi je dis la Mi-8, oui.
Il y a une chose revenons à cette entreprise française. Oui. Il y a une chose que très peu de Français savent, c'est que la marque la plus collectionnée au monde, c'est Citroën.
Oui. C'est vrai?
Eh oui, vous pouvez vérifier. C'est vrai. Pourquoi? C'est très simple. 2 chevaux, DS, Ami, Méhari.
Des mythes, en fait.
Voilà. Il y a une chose que je fais souvent, c'est que je vous montre 5 silhouettes. Je n'ai pas besoin de dire que c'est Citroën. D'accord? Je vous mets 2 chevaux, DS, Méhari, Ami. Ami 6, vous savez que c'est Citroën. Et donc, la marque la plus collectionnée au monde, c'est Citroën. Et donc, effectivement, c'est un héritage, c'est une fierté morale que nous entretenons. Et donc, à chaque opportunité que nous avons d'aider, de participer à cette mémoire collective qui est bien au-delà de nous, qui est au-delà de la marque, qui est de la société française et bien au-delà, évidemment, nous y participons. C'est un énorme plaisir.
Et ils entretiennent la flamme. Continue.
Merci, merci Vincent Cobet, directeur général de Citroën. Et si vous voulez poser toutes vos questions, justement, ce patron qui était là ce matin, il sera avec Jean-Luc Moreau. Évidemment, c'est beaucoup plus spécialisé.
Technique.
Parlons auto. Demain, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, de 11h à midi. Il y a toute l'actualité, évidemment, qui est concernée sur l'automobile. Et puis ce soir, je n'oublie pas le rendez-vous, c'est avec Pierre Chasseret. Pierre Chasseret et Jean-Marie Bordry, chaque vendredi soir, 19h à 20h. Vos mômes, on roule toujours sur Sud Radio. Allez,
dans un instant, est-ce que nous avons besoin d'un psy? J'ai envie de vous dire oui, peut-être chacun d'entre nous a besoin d'un psy, mais comment le trouver? Et c'est la question.
Prenez le divan et puis on s'installe.
Jamais sans mon psy, peut-on être heureux?
La banquette arrière.
Minou Azoulay sera avec nous dans quelques instants et Pascal Delanois. Non, c'est moi qui conduis, Patrick.
Je le sais.
Tu es fou.